En attendant que tout le monde vienne, vous pouvez voir sur l'écran, en fait, il y a différentes phrases qui sont affichées. C'est des phrases qui ont été du coup, dites par des personnes qui sont accompagnées par le service du TA au moment des évaluations. Donc c'est aussi une possibilité de connecter à un peu une réalité, à un terrain de ce qui est exprimé au moment des évaluations.
À découvrir d'un coup. Alors, du coup, sur le moment, j'ai dit, je vous laisse le micro, je vous introduis.
Oui, ça va. Oui.
Voilà, donc pour tous ceux qui nous rejoignent, vous voyez à l'écran, il y a pas mal de phrases. Ce sont toutes des phrases qui ont été dites au moment de l'évaluation du service du TA par des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est aussi une manière de se connecter à des paroles qui ont été prononcées et à des vécus. Juste avant de passer la parole à l'intervenante pour la deuxième partie, moi, je voudrais vous remercier, au fait. Puisqu'on a commencé, j'ai commencé la journée en vous demandant de soigner finalement cette qualité d'écoute. Et je trouve qu'elle a vraiment été présente dans toute cette première partie de matinée. Et je pense que c'est quelque chose à reconnaître. Et je voudrais aussi vous remercier, surtout à ceux qui étaient déjà dehors au soleil, d'avoir accepté de revenir à l'intérieur. Voilà, on sentait bien cet élan de rester dehors, cette invitation, comme si j'étais le professeur, en me disant, oui, on pourrait faire cours dehors, mais voilà. Donc, merci à tous d'être là. On va essayer de continuer à garder cette même qualité d'écoute qu'on a pu offrir aux premiers intervenants en cette première partie de matinée. Et donc, pour rappeler comment ça va se passer, donc on va écouter de nouveau trois personnes, à la suite l'une de l'autre. Et puis après, on va avoir un moment un peu d'échange, comme on a fait tout à l'heure. Et puis alors, on aura un moment plus d'intégration. On demandera à toutes les personnes politiques qui sont là ici aujourd'hui, représentatives un peu de chaque parti, en vraiment quelques minutes, aller un peu à l'essence de qu'est-ce que cette matinée leur aura apporté. Et puis après, on aura une clôture. On entendra aussi Paul nous faire un retour de ses dessins. Et alors, il y aura le lunch qui nous attendra pour 12h30.
Ah ouais, ouais, si vous voulez. Vous partez à quelle heure? Et il est quelle heure, là? Ce qu'on fait peut-être, c'est qu'on écoute deux interviews. Si vous voulez nous dire, on écoute deux intervenants, que je vous passe la parole alors avant de vous partir, en 3 minutes. Non, c'est bien. Pas de soucis. Ça risque. Bon. On va prendre un risque.
Donc, je vais passer maintenant la parole à Marina Goffelli, qui est directrice, qui fait partie de la direction de l'inclusion sociale et professionnelle de l'AVIC.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé de vous parler du modèle théorique des services d'accompagnement et de l'exprimer en quelques mots. Ce que je vais vous dire a déjà été dit lors des exemples qu'on a donnés et des interventions précédentes, mais donc je vais quand même conserver ce que j'avais préparé. Donc, en quelques mots, je dirais tout d'abord que les services d'accompagnement sont nés au début des années 80 pour répondre aux souhaits des personnes en situation de handicap de vivre en toute autonomie dans leur milieu de vie naturel. Et donc, pour citer une ancienne directrice pionnière de l'accompagnement, l'accompagnement, c'est la co-création. En fait, au départ de la demande d'une personne en situation de handicap, on va avec elle co-construire une réponse qui répond à sa demande et qui lui permette de réaliser ses objectifs et d'aboutir à ses projets. L'accompagnement, il se réalise avec la personne. On ne fait pas à la place de la personne, on fait avec la personne. L'objectif est l'autonomie de la personne, c'est la priorité pour un service d'accompagnement. La réponse à la demande peut être individuelle, collective, lorsque cette demande coïncide à la demande de plusieurs personnes, ce qui leur permet d'être ensemble, de se rencontrer et de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Ou elle peut être aussi communautaire, c'est-à-dire qu'au départ de la demande de la personne, on va sensibiliser la communauté et les opérateurs de la société pour que cette personne puisse trouver sa place au sein de la communauté, comme tout un chacun. L'accompagnement se réalise dans tous les milieux de vie de la personne et dans tous ses domaines d'activité. Donc, comme on l'a évoqué, c'est aussi bien les loisirs, l'emploi, le milieu médical, le logement, la vie affective et sexuelle, la vie administrative, enfin tous les secteurs. La réponse est toujours individualisée. Donc, au départ de la demande de la personne, en fonction de ses compétences, de son entourage et du réseau qui l'accompagne, on va construire avec la personne une réponse qui peut l'aider à réaliser ses projets. Chaque service est donc unique par ses activités, par les personnes qui l'accompagnent, par le réseau dont il ressort, c'est-à-dire que l'accompagnement sera différent en ville par rapport que dans une zone rurale. Et il existe une réelle diversité dans l'accompagnement et les activités que chaque service d'accompagnement réalise. L'accompagnement nécessite de la créativité et de l'inventivité. Et ainsi, il faut souligner que de nombreux projets qui sont devenus depuis des services, des offres de services, sont issus des services d'accompagnement. On peut citer par exemple l'habitat encadré ou des activités citoyennes. La souplesse, la créativité, la réactivité et l'inventivité et la capacité d'adaptation sont les clés de succès des services d'accompagnement. Et ces facteurs sont réunis grâce à la taille de ces services d'accompagnement. La plupart, ce sont des petits services qui sont intégrés dans leur quartier, dans leur communauté. C'est la porte du voisin où on peut aller pour boire un café, pour discuter avec des copains, ou pour poser ses questions et mettre à plat ses soucis. Leur agilité et leur capacité de réactivité ont été sollicitées pendant la crise Covid. En fait, le cabinet à l'époque a fait appel à eux pour accompagner les personnes qui étaient isolées chez elles, qui étaient désemparées face à la crise, à ce milieu anxiogène. Et donc, ils ont été sollicités à cette époque et grâce à leur capacité d'adaptation. Leur petite taille a des avantages dans l'accompagnement et dans leur mission. Seulement, cette petite taille a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que le personnel est amené à réaliser toute une série de tâches qui n'a rien à voir avec l'accompagnement, comme par exemple être ouvrier d'entretien à certains moments, être comptable, notaire, avocat, en fait toutes des fonctions qui normalement sont rencontrées par d'autres, mais qu'il n'y a pas moyen de financer. Donc, cependant, il est nécessaire que ces services restent de taille humaine pour pouvoir accompagner au mieux les personnes au sein de la communauté et qu'ils conservent leur capacité d'inventivité, de création aussi. Donc, la réponse à ces questions, à la nécessité d'avoir les ressources et tout en conservant une taille humaine, elle est encore à construire, je n'ai pas la solution. On pourrait parler de groupements de services, de conventions. Enfin, les solutions sont à trouver, encore à inventer. Mais là, on peut faire confiance à votre créativité pour trouver des solutions. Et donc, je terminerai, j'espère que normalement je suis dans les temps, je terminerai en citant juste un petit proverbe africain que j'ai entendu par hasard et qui met en avant le besoin d'innovation et qui est « L'herbe ne pousse jamais sur le chemin que chacun emprunte ». Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Christine Mailly, qui est donc la secrétaire générale au Réseau Wallon de la lutte contre la pauvreté.
Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir associée à cette matinée d'échange. J'avais préparé des points un peu structurés et puis en fait j'ai plus envie de rebondir en fonction de ce qui s'est déjà exprimé auparavant. Et d'abord dire que si on est ici, c'est parce qu'il y a des relations relativement fréquentes avec ASA. Dans la mesure où, au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, les inégalités et la pauvreté nous intéressent pour l'ensemble des populations, quelles que soient, j'ai envie de dire, les conditions familiales, leur état de santé, est-ce qu'elles sont porteuses de déficience ou pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire régulièrement des parallèles entre ce que peuvent vivre des personnes qui vivent des déficiences et des personnes qui peuvent être socio-économiquement écrabouillées et donc connaître à travers les inégalités la pauvreté, qu'il y a évidemment aussi des effets cumulatifs qui mettent des gens dans des situations aggravées où parfois on est porteur d'une déficience et la déficience va conduire à de la pauvreté, ou bien les conditions de vie au long de la vie, parfois dès l'enfance, par la relégation, par la disqualification, par la dureté de la vie, va conduire à une dégradation de la santé physique, de la santé mentale, etc., et qui provoquera ce qu'on va appeler une déficience, un handicap, etc., avec une nécessité d'accompagnement au long de la vie. Donc on voit bien que les choses ne sont pas toutes blanches, toutes noires, segmentées, coupées en, etc., etc. Et c'est déjà un apport dans ma réflexion que je partage ici pour l'ensemble de l'Assemblée, mais beaucoup le savent, mais que je redis à l'autorité politique. C'est très important d'arriver à travailler dans la transversalité. Alors la transversalité, le terrain l'invente souvent. Malheureusement, elle est très difficile à faire percoler dans le champ politique et elle est encore plus difficile, évidemment, à faire percoler dans les administrations dès lors que le champ politique lui-même n'en sera pas le moteur, puisque on sait quand même que les administrations, bien sûr, si elles restent, elles sont quand même aussi là pour exécuter de législature en législature la mise en application d'un certain nombre de décisions prises. Et je suis étonnée comme plus le terrain doit inventer tant la disette est grande et que la résistance à tout ce qu'on a dit auparavant doit être forte, plus par contre on se trouve confronté à de la segmentation dans le champ des administrations et j'ajouterais avec toute la digitalisation dont on a parlé, la complexité administrative, etc. Donc moi, un élément que j'ai envie de mettre sur la table, c'est l'importance, quand on s'engage en politique, de mon point de vue, et l'importance, quand on s'engage dans des listes et qu'on veut aller au gouvernement et qu'on veut constituer une coalition, etc., de se demander pourquoi on veut aller gouverner. Bien sûr, aller gouverner, c'est gouverner pour qu'il y ait du développement économique, il faut qu'il y ait de l'argent qui circule, on est bien d'accord, mais il me semble que gouverner, c'est avant tout pour se demander comment on va garantir à chaque citoyen dans notre collectivité une vie décente et saine pour que la traversée de la vie, quelles que soient les difficultés qu'il faut déjà affronter, parfois malgré soi, notamment dans le cadre de déficience, hein, qu'on peut subir alors qu'on n'a rien cherché, hein, pour les vivre dans aucun cas, ben, quelles que soient les conditions de vie des gens. Et je pense que remettre ça au cœur du débat, ça a peut-être l'air enfantin, mais je ne le crois pas. À mon avis, c'est le cœur des politiques publiques normalement. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui a aussi été dit, ASA, ben, c'est un regroupement d'associations. Le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, c'est un regroupement d'associations, mais aussi une articulation avec plein d'autres. Et en effet, je pense que le politique doit comprendre qu'il a un vivier extraordinaire en Wallonie. Quelqu'un d'autre le disait tout à l'heure, je pense que c'est clair, au niveau du terrain associatif, mais aussi au niveau d'un certain nombre de réseaux associatifs qui ne sont pas uniquement dans le champ fédératif, c'est-à-dire dans le sens de défendre, et à juste titre, il en faut, défendre l'existence d'associations qui sont dans un secteur déterminé, etc. Mais on a une partie de réseaux, c'est le cas de ASA, c'est le cas du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, c'est sans doute ce qui fait qu'on se sent bien et fort ensemble de faire des choses, où ici, les populations concernées sont là autour de la table et il y a une force de connaissance et de possibilité d'alimenter le débat politique qui est très puissant. Et donc, on est en quelque sorte dans quelque chose où il peut y avoir, et il y a dans la réalité, une auto-représentation en quelque sorte des personnes concernées avec les associations qui les accompagnent et qui peuvent nourrir le politique. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette réalité pourtant très vivace et très forte est très largement et insuffisamment reconnue au niveau du champ des autorités politiques, au sens où j'ai envie de dire, c'est de temps en temps qu'on consulte et c'est régulièrement que nous devons, aux chausse-pieds, essayer d'être consultés par rapport à ces réalités-là. Quelqu'un me disait ici à la pause, parmi les représentants politiques, en fait, il faudrait une rencontre comme ceci tous les mois. Et je lui disais, mais en fait, on est là tout le temps. Et donc, si se structurait le fait que nos organisations soient moins bouffées par l'administratif, soient moins contraintes d'être dans des comités d'accompagnement de tchic, de tchac, etc., à la solde de consultants privés que l'autorité publique va chercher et paye grassement, alors que ces consultants privés vont venir rechercher chez nous la connaissance, mais écrire ça sur des beaux papiers glacés en le transformant en management public qui va apporter quelque chose ou rien, qui va rester dans un tiroir la plupart du temps, ou qui va conforter ce que l'autorité politique voulait entendre, eh bien, on pourrait faire ce travail. Et donc, il y a même un paradoxe pour moi qui est que même si c'est insuffisamment, l'autorité politique finance cela, finance le fait qu'on se retrouve, etc. Et en quelque sorte, néglige la qualité et la compétence qu'il y a à l'intérieur de ces dispositifs-là, mais n'a pas de scrupules à dépenser sous cette législature. Si je ne sais pas combien de millions ça doit représenter à Wallonie, les chiffres circulent, hein. On les connaît à Bruxelles, etc., en consultance privée, où là on se dit, ah, ceux-là sont certainement plus malins que le terrain, pour apporter la connaissance sur quelque chose qu'on voudrait connaître et comprendre. Donc voilà, je me permets de mettre ça sur la table parce que je pense que ça a quelque chose à voir fortement entre l'Assemblée qui est là aujourd'hui et la réalité du terrain. Je mets ça aussi en parallèle avec le fait qu'au réseau, on fait partie de ceux qui sont convaincus que la démocratie doit être défendue, doit être augmentée, doit être vivifiée, bien sûr, hein. Et on n'a rien contre le fait qu'on fasse des assemblées citoyennes, des tirages au sort, etc. Mais servez-vous déjà des outils qui sont là. On peut venir toutes les semaines rencontrer. Ça, c'est possible, si ça s'organise et que ça s'institue. Si on ne nous bouffe pas notre énergie à devoir faire autre chose, ou si on ne nous case pas pour cocher la case, je vais le dire pour le réseau Wallon, hein, on va nous mettre dans un groupe ou dans un autre, on a coché la case, les pauvres ont été consultés. Je le fais un peu à la dure, hein, mais c'est régulier. C'est régulier toutefois. Donc voilà, je pense que la dynamique qui existe ici est vraiment importante. Alors je viendrai sur un autre aspect qui me frappe. C'est au niveau alors de l'intérêt qu'a ASA et les associations qui sont derrière, mais surtout de l'intérêt qu'a la population qui est concernée par les services offerts. Je trouve qu'on avance que trop lentement et même peut-être très peu. Alors là, Aza le dirait mieux que moi, probablement, parce que c'est eux qui peuvent évaluer ça. Mais sur le fait de renforcer ce qui est de l'accompagnement non institutionnel. Donc, que les gens vivent à domicile, qu'il y ait de l'autodétermination, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait du personnel, etc. Et donc, il me semble que c'est un paradoxe parce qu'en même temps, on n'arrête pas, par exemple, de dire sur le vieillissement, il faudrait absolument que les gens restent à domicile parce que la maison de repos va coûter trop cher. Mais je vais vous donner un autre exemple sur un combat que nous menons et qui touche aussi des personnes qui ont des déficiences. Bah, c'est ce foutu statut cohabitant qu'il faut absolument faire sauter. Et j'espère que tous les partis qui vont monter en coalition du côté francophone au fédéral auront ça sur la table et ne feront pas tomber ça de la table lorsqu'ils devront négocier avec les Flamands sur du donnant-donnant, sur ce qu'on fera, parce que ça fait un combat qui est très long, qui touche 600 000 ménages, mais qui touche aussi des personnes qui sont dans la déficience. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont une déficience, qui restent en institution, parce que si elles vont vivre à domicile avec quelqu'un de leur famille, elles vont perdre une partie de leurs revenus. Et donc, ce n'est pas possible d'en faire le choix. Quelle imbécilité, en plus, même pour quelqu'un qui défend une économie, et j'en suis, qui défend une économie saine, ça coûte bonbon dans une institution, alors qu'au domicile, ça permet de construire, recréer, continuer à vivre, etc. Donc, je me dis aussi que la question de comment renforce-t-on tout ce qui est l'accompagnement pour que les personnes gardent une autonomie maximale est vraiment très, très importante. Je reste deux minutes sur le statut cohabitant pour dire que si aujourd'hui, ça risque de rester sur la table de négociation fédérale. Je n'aime pas le mot risque, hein. Je vous assure que jusqu'au bout, on se battra pour que ça le soit, mais ça risque de rester sur la table et on doit encore aller convaincre des partis, notamment un parti francophone, mais aussi les partis flamands, et on va continuer à le faire jusqu'au moment des élections. Si ça risque d'être sur la table, c'est aussi parce qu'il y a une coalition large qui s'est construite depuis la législature dernière et qu'aujourd'hui, du côté francophone, mais la masse des gens réclament ça. La masse des gens réclament ça. Dramatiquement, parfois, c'est combattu par des gens qui estiment que si les gens avaient un peu trop d'argent, on ne saurait plus leur faire faire ce qu'on veut. Il y a des institutions qui disent ça aujourd'hui. C'est gravissime de dire ça. Parce que ça veut dire qu'on est d'accord de laisser des gens dans la soumission et la pauvreté s'ils sont obéissants au fonctionnement du service, aux règles du service et à ce que le service veut en faire. Je ne parle pas de services qui sont ici. Donc, je veux dire que ça veut dire que est-ce que c'est normal qu'il y ait des services qui doivent vivre de l'existence de suffisamment de pauvres pour continuer à fonctionner ? Voilà, je laisse la question au milieu de la table. Mais donc, on doit se battre. Mais cette coalition au niveau des statuts cohabitants, c'est ça qui fait que ça arrive sur la table du fédéral aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur le numérique, parce que c'est une situation dramatique, cette digitalisation galopante. On en a dit assez avant. Claire Lemaire a expliqué, il y a eu des réactions. Et donc, on est complètement là-dedans. Mais par contre, je pense qu'il faut une coalition de ce type-là, par rapport à ça. Parce que moi aussi, je suis étonnée, quand on rencontre dans des tas d'endroits les autorités politiques, lorsqu'on dit ce qu'on dit maintenant, ce qui ne dit pas qu'il ne faut aucune digitalisation, hein, c'est pas ça qui a été dit, hein, mais lorsqu'on évoque ce qui est dit maintenant en termes de simplification, etc., on passe vraiment pour des emmerdeurs ringards, qu'on écoute poliment, parce que tout juste, il faut bien jouer le poli, ou la polie, hein, et on attend que ça passe en essayant de faire croire à tout le monde que quand tous les vieux seront morts, ça sera réglé et que l'affaire va aller toute seule. Il n'y a rien de plus faux, il n'y a rien de plus antidémocratique, et je crois que c'est une coalition large, progressive, dont il ne faut pas penser qu'on va gagner vite. La déception à Bruxelles était énorme, donc ce n'est pas si simple que ça de remobiliser. Et en même temps, c'est un enjeu démocratique et de société majeur, je pense, auquel c'est important de s'attaquer. Alors, quand on a rencontré les politiques parti par parti dans le cadre de petits déjeuners politiques auxquels Aza a participé, un des points qui est venu très fortement sur la table et qui a été soumis aux politiques pour qu'ils y réagissent, c'était toute la question aussi de la formation et de l'emploi. Et donc de tout ce champ de la difficulté pour une partie non négligeable de personnes de souhaiter travailler, de vouloir travailler, de vouloir se former, mais d'être dans l'incapacité d'entrer dans le champ du travail tel qu'il est organisé, tel qu'il est offert aujourd'hui, et également d'ailleurs dans une partie du champ de la formation. Alors c'est quand même un paradoxe, à un moment où tout le monde dit « il faut de l'emploi, il faut faire du chiffre, il faut aller vite, etc. » La question qui se pose par rapport à ça, par rapport à la réalité de la déficience et du handicap, elle est la même dans la question de la désaffiliation sociale et de la grande pauvreté, hein. C'est exactement la même, hein. Donc le cumul des gens qui voudraient bien, etc. Donc se poser la question à partir de l'endroit du marché du travail, à partir de l'endroit de la conception du travail, à partir de l'endroit, qu'est-ce que ça veut dire de mettre au travail chacun dans notre société, moi me paraît très très importante par rapport à cette question-ci. Mais pas de façon instrumentaliste, évidemment. Pas en se disant tout simplement on veut faire du chiffre, on veut boucher des trous, ou on veut qu'il y ait des cartons qui soient faits très vite et moins chers, quoi. Pas ça la question, hein. La question c'est comment est-ce qu'on se réalise dans l'emploi, et ça nous paraissait très 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 important. Voilà, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Je suis bien. Bon, donc ça va, donc je peux continuer un petit peu, mais donc cette question, elle est cruciale parce que on dirait que dans cette société, même pour l'emploi, on fait des espèces de catégories. Donc aujourd'hui, on agresse les chômeurs massivement en disant c'est tous des fainéants. Hein, et ils ne veulent pas avoir de travail, et tout le monde connaît un chômeur qui habite à côté de chez lui, qui fait du travail en noir et qui vit riche et bien, n'est-ce pas, et on le raconte à l'envi, et donc on fait croire que c'est ça la situation des chômeurs. Mais à l'intérieur de l'ensemble de ces gens-là, ben, y a ceux qui sont balles de ping-pong, comme des personnes qui vivent des déficiences, pas assez pour le travail, trop peu pour la mutuelle, trop pour le chômage, mais pas assez, mais peut-être passer par la case CPS, mais etc. Et qui, au-delà, je veux dire, de ne plus être reconnus comme des sujets, mais devenant objets d'administration et objets d'enveloppe, parce que c'est ça, hein, ils deviennent objets d'enveloppe, hein, on va les foutre dans quelle enveloppe, hein, voilà. Eux ne représentent pas quelque chose qui aurait du sens par rapport à eux et à la société, par rapport au travail. Ça, c'est une vraie violence qui se superpose, et elle est vraie dans le monde du handicap, elle est vraie dans le monde de la pauvreté. Et je terminerai en disant, par rapport à ça, que gérer une société dans l'intérêt de la réalisation individuelle de tout le monde, Sylvie l'a bien dit, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est une traversée de la vie agréable, paisible, simple, mais juste. Personne, je pense, parmi ces populations ne se dit « j'ai envie de devenir multipropriétaire demain ». Ce n'est pas eux qui se disent ça. Ils voudraient juste bien avoir un logement correct. Hein, ce qui n'est pas la même chose que de vouloir accumuler du bien. Hein, donc, qui est juste là-dedans? Celui qui veut accumuler du bien ou celui qui voudrait bien juste vivre simplement et sereinement? Ben, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Et pour se poser ces questions-là, je pense qu'il est vraiment très important de sortir de la représentation qui est les gens n'ont plus de problème quand ils sont en ordre avec leur portefeuille, donc il n'y a pas de dette, ils savent payer leurs factures, et les gens n'ont plus de problème quand ils sont en ordre avec leurs papiers. Et s'ils sont en ordre avec ces deux choses-là, ben, ils sont devenus invisibles de la société, peuvent crever de misère, mais ce n'est pas grave, parce qu'ils ne sont plus un ennui. En général, hein, ils ne sont plus un ennui, on ne les voit pas, quoi. Alors ça devient un trouble une fois que c'est compliqué au niveau de payer, hein, etc., et donc de risque d'endettement, enfin, etc., et ça devient dur une fois que ça grippe au niveau administratif, etc. Alors là, il faut régler les choses. En fait, les gens ne sont pas des portefeuilles et des papiers, hein. Les gens sont des êtres humains qui voudraient bien réaliser la traversée de leur vie pour eux de façon sereine, et qui, par là même, si on ne leur impose pas de bouffer leur créativité à régler des problèmes tous les jours, ont envie de projeter leur créativité dans la collectivité. Ouais. Ils ont envie d'être dans le regard de l'autre, quelqu'un qui apporte quelque chose, qui a une utilité, qui a une présence relationnelle qui fait que ça fait du bien à d'autres, et qui eux-mêmes, ils auront du bien par rapport à cette présence relationnelle. Et donc, je pense que là, on est sur un terrain important. Alors, ça paraît peut-être éloigné, ce que je dis, de la décision concrète qu'il faut prendre quand il s'agit de prendre des mesures, mais pas tant que ça. Parce que si c'est avec ce prisme-là qu'on évalue les mesures à prendre, qu'on étudie les budgets à distribuer, et qu'on se demande quels sont vraiment les critères de développement d'une société, alors ça fait évoluer parfois les décisions, les prismes, les priorités, etc., dans ce qu'on peut faire totalement. Je dirais aussi qu'on nous dit « il n'y a pas d'argent ». Ben, il n'y a pas d'argent tant qu'on ne décide pas d'aller vers une grande réforme fiscale, tant qu'on ne se pose pas la question de ces priorités-là, tant qu'on ne se dit pas, en effet, ben, si on laisse aller la digitalisation galopante, alors qu'ils payent pour que les gens soient bien quand même dans une société où ils ne seront pas reconnus par cette espèce de TGV violent qui passe, ouais. Mais qu'ils payent. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui payent, ce sont les pauvres, ce sont les personnes porteuses de déficience, ce sont les vieux qui n'arrivent pas à aller en maison de repos, ce sont les travailleurs qui ont du travail à temps partiel non choisi, avec des revenus qui n'en sont pas. Ils payent cash tous les jours.
C'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup. Ouais. Avant de passer la parole à Jean Blairon, comme je vous avais annoncé, on va laisser après les discours de chaque intervenant un temps à chaque politique pour s'exprimer. Mais je sais que Philippe Courard doit partir à midi, donc dans 3 minutes. Et donc je vais maintenant lui donner l'exercice périlleux. En tout cas, lui demander en 3 minutes, là, si vous pouvez nous dire ce que cette matinée vous a apporté. Qu'est-ce que vous avez appris? Je pense qu'il y a déjà certainement un élément sur la nuance par rapport aux administrateurs de biens qu'on a pu tous apprendre ensemble. Mais quels sont les autres éléments que vous avez pu apprendre ce matin?
Voilà, merci à toutes et à tous. Et c'est important, comme on l'a souligné, de pouvoir entendre ce que sont les besoins, les demandes et surtout le vécu du quotidien. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup de choses, évidemment. C'est un monde que je connais quand même un peu de par mes fonctions antérieures. On a travaillé sur beaucoup de textes, tant au fédéral qu'à la région, notamment en modifier la Constitution avec l'article 22. Mais ce que je fais le constat aujourd'hui, c'est évidemment qu'on doit en revenir à un bon sens, revenir à faire confiance aux gens qui sont sur le terrain, qui travaillent. Il faut réhumaniser les relations. Il faut pouvoir travailler en transversalité, ça me paraît évidemment essentiel. Et puis comme homme politique, je vais devoir continuer, avec tous les autres collègues qui sont ici, à essayer de convaincre l'ensemble du monde politique de remettre des moyens supplémentaires, parce que malgré tout, on a beau avoir de beaux projets, de belles idées, il faut des moyens pour plus d'accompagnement, pour des logements adéquats pour les personnes qui connaissent les difficultés. Mais j'ai envie de dire, tout ce que vous avez ici revendiqué, souhaité, c'est quelque chose de transversal et qui peut s'appliquer également à d'autres thématiques. Christine Mailly vient de le souligner, la problématique de logement concerne le handicap, mais concerne évidemment beaucoup d'autres personnes. Je pense qu'il faut aussi vraiment essayer de faire en sorte d'arrêter de vouloir formater l'accompagnement. Il faut permettre, comme on l'a dit en termes de transversalité, de pouvoir s'adapter à chaque spécificité. Chacun a déployé quelque chose de particulier en fonction de son public et on doit arrêter le monde politique et l'administration d'essayer de faire entrer les gens dans des cases. On doit donner peut-être des moyens, des droits de tirage avec un certain contrôle, puisqu'on est dans une société où si on ne contrôle pas, on se sent mal. Mais il est vrai aussi que quand on ne contrôle pas du tout, on connaît évidemment les travers et les abus qu'on a rencontrés, y compris dans le monde politique. Donc il faut maintenir quand même un peu de contrôle, mais en tout cas peut-être pas le contrôle tatillon comme celui qu'on connaît. Cet excès d'administration, vous avez aussi évoqué, passer beaucoup trop de temps à remplir des papiers, à répondre à des attentes administratives, alors que les besoins ne sont pas ceux-là. Ils sont ceux de servir celles et ceux pour qui, je dirais, on est là. Et les témoignages ici ont été explicites à souhait. Voilà. Peut-être terminer en vous disant qu'un de mes plus grands combats pour cette campagne électorale, c'est le statut cohabitant qui a été évoqué. Mais je vous assure que ce n'est pas gagné. Parce que, un, beaucoup de partis politiques ne sont pas favorables et qu'on met déjà en exergue quand on en discute. Oui, mais est-ce que tu te rends compte que statut cohabitant, certains vont se retrouver avec d'énormes revenus supérieurs à ceux qui travaillent, alors qu'ils ne foutent rien et en les mettant ensemble, on va leur donner encore plus de moyens qu'actuellement. Il y a des partis et des politiques pour qui ça pose énormément de problèmes. Donc il faudra faire preuve vraiment de beaucoup de pédagogie et de force de conviction pour pouvoir gagner du terrain sur cette matière-là, parce qu'elle est essentielle et elle permettrait de régler énormément d'autres problèmes. Voilà, je ne serai pas plus long pour respecter les 3 minutes. Mais en tout cas, encore merci de l'invitation et je terminerai peut-être en vous disant que je vais rédiger une note de toutes les notes que j'ai prises et aussi de tout ce que vous avez envoyé pour le diffuser largement à l'intérieur de mon parti, bien entendu, c'est un minimum.
Merci à vous, merci beaucoup. Eh bien, nous enchaînons donc avec Jean Blairon.
Oui, bonjour à tous. Je crois que je représente ici le monde du vieillissement. Hein, comme
donc Jean Blairon pour le monde du vieillissement.
Puisque, en réalité, je suis en contact avec l'association ASA depuis les années 90. Et en préparant ceci, je me remémorais les débuts de cette rencontre. Et c'était déjà la lutte contre un double discours, hein, puisqu'on disait « Ah, l'accompagnement, c'est important, milieu ouvert, etc. » Mais on voulait déjà, à l'époque, imposer au service des technologies d'intervention qui ne leur convenaient pas. À l'époque, c'était un machin venu du Québec, les plans de service individualisés, si vous vous souvenez de ça. Hein, bon, et donc, mon intervention, c'était déjà d'essayer de combattre cette imposition. Et ce double discours, dont je pense qu'il est involontaire, ce qui pose des questions compliquées de compréhension. Parce que, vous voyez, si c'était volontaire, bon, ben voilà, c'est assez simple, quoi. Hein. C'est l'hypocrisie, et puis voilà. Mais je pense que c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Et donc, je vous fais une intervention à l'ancienne, hein, traditionnelle, pour essayer de comprendre ça. Je suis parti de l'idée que, évidemment, dans la période où nous sommes, nous lisons beaucoup de mémorandums. Hein, donc, chacun de ces mémorandums s'adresse au même destinataire, hein, les partis politiques qui sont en compétition pour le pouvoir. Par contre, s'ils ont les mêmes destinataires, ils n'ont pas d'office le même point de vue. Et empiriquement, moi, je vois trois points de vue différents. Le premier, qui est le plus faible, c'est les mémorandums qui mettent en avant uniquement les besoins des institutions elles-mêmes ou des groupes qui sont représentés. Donc, au pire, on veut des sous, point à la ligne. Quoi. Bon. Il y a un deuxième type de mémorandum, plus intéressant, où l'institution essaye de relayer une série d'éléments non pris en compte par rapport à l'existence de ses bénéficiaires. Et il y a un troisième type de mémorandum, c'est celui qui s'attache au sens même de l'action. Parce qu'on pense que celui-ci est estompé aux yeux des destinataires politiques, soit qu'il est mal compris ou qu'il est menacé. Et je pense que le mémorandum qui nous est soumis ici par l'ASA fait partie de cette troisième catégorie, puisque j'ai relevé qu'une majorité des points qui étaient avancés concernent effectivement le sens de l'action d'accompagnement. Et on m'a demandé de commenter deux de ces points. Je vous les rappelle, hein, conserver les petites structures actuelles, gage de souplesse et d'adaptabilité. Deuxième point, refuser l'uniformisation, car les réalités des différents services sont diverses, tout en ayant des valeurs communes. Donc j'ai essayé de replacer ça dans l'histoire de la lutte contre les doubles discours. Et je vous fais remarquer que quand même, ces demandes sont un peu inhabituelles dans des mémorandums politiques. Peu de gens demandent de rester petit, hein, et peu de gens demandent de rester un brôle. Aux yeux des politiques, vous voyez, la diversification, ce n'est pas d'office une qualité. Alors, dans le mémorandum d'ASA, le danger ou l'adversaire ne sont pas nommés. Hein, si bien que je me suis demandé s'il y avait aujourd'hui des scénarios rampants qui iraient à contresens de ce qui est demandé, vous voyez, une taille réduite et une résistance à l'uniformisation. Est-ce qu'il y a des raisons de crainte des changements ou des intentions plus ou moins clairement exprimées? Ce n'est pas évoqué. Et donc, il m'a paru utile d'essayer de réfléchir aux enjeux qui sont liés à ces deux demandes de conservation d'une taille modeste et ce refus de l'uniformisation. Pour essayer de répondre à ça, je mobiliserai un point de vue complémentaire des autres intervenants, qui est la logique même de ce que j'appelle le travail en association, qui est différente du travail en entreprise ou du travail dans un service public. Alors, le premier point de mon raisonnement consiste à mettre en avant que l'horizon général de ces deux demandes me paraît être ce qu'Alain Touraine a très bien défini comme relevant de l'état de droit au pluriel, qu'il oppose à l'état de droit au singulier. Donc je cite Touraine, « Je préfère parler de l'état de droit au pluriel plutôt que de l'état de droit, car ce n'est pas l'État qui décide par lui-même de se fonder sur le droit, ce sont des actions collectives qui imposent aux lois la défense des droits. » Et il me semble que beaucoup de choses qu'on a entendues ce matin relèvent bien du fait que notre seul espoir pour que les droits des personnes discriminées, par exemple, ou des personnes handicapées, soient rencontrés, c'est que des actions collectives écoutent ces demandes, les portent et les fassent, autant que faire se peut, aboutir. Dire cela, c'est quand même admettre implicitement que bien des lois sont définies au bénéfice exclusif des plus nantis, et on en a parlé. Je pense aux travaux des sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui, dans leur ouvrage, dit « La bourgeoisie fait la loi », et c'est souvent le cas. Pourquoi est-ce que nous avons tant de difficultés ? Christine en a parlé, c'est parce qu'une série de lois ne sont pas faites pour les personnes moins nanties. Et donc, il me semble que l'horizon de ces combats, c'est bien défendre une conception de l'État, et là je m'adresse directement au parti, qui se donnerait un rôle subsidiaire et qui serait donc réellement à l'écoute des mouvements sociaux dans la fabrique de leurs lois. Et compte tenu du rôle grandissant des exécutifs dans les sociétés démocratiques, ce que je regrette, on peut considérer d'ailleurs que la future DPR sera le creuset des lois à venir. Bon, et donc une première question discriminante que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre conception de l'État et quelle place donnez-vous aux mouvements sociaux dans l'écoute de la fabrication des lois ? On a eu de nombreux exemples du fait que c'était rarement le cas. Alors, de cet horizon, je tire un enjeu général. Et en matière d'accompagnement, il me semble que l'enjeu général concerne bien le statut des bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes handicapées en l'occurrence. Est-ce qu'on le reconnaît, pour reprendre ces termes de l'éducation permanente, de Marcel Ichter, un statut de réel commanditaire de l'action, c'est-à-dire un statut de personnes qui sont aux commandes de l'action qui est construite à leur intention. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que l'accompagnement et les actions qui en découlent partent réellement de celles et ceux au bénéfice de qui elles sont mises en œuvre. Et je pense que le double discours que j'évoquais tout à l'heure, il trouve là-bas un peu son paradoxe, c'est qu'on le dit dans les mots, mais qu'on l'interdit dans les faits. Bon, et c'est ça le problème. Alors donc, l'enjeu général pour moi, il est bien de reconnaître que les personnes puissent déterminer les mouvements sociaux qui portent leurs demandes, leurs besoins, leurs désirs et leurs refus. Alors, ce qui voudrait dire qu'elles ne seraient plus abordées comme des victimes ou comme des objets, comme le disait Christine tout à l'heure, mais bien comme des sujets de droit, ce qui voudrait dire que les agents publics, c'est-à-dire l'État, accepteraient de tirer leur légitimité seulement s'ils étaient capables de prendre en compte ce que les mouvements sociaux et leurs commanditaires effectifs mettent en avant. Nous n'y sommes pas. Alors, prendre en compte, être à l'écoute, effectivement, ce n'est pas définir à la place des premiers concernés ce qu'il en est de leurs besoins éligibles ou pas. Ce n'est pas exiger des associations qu'elles livrent une programmation à court et à moyen terme de leurs actions. Et ce n'est pas traduire unilatéralement et sans écoute ces besoins en appel à projets aussi artificiels que temporaires et insuffisants. Alors, donc, la question hein, qui s'adresse au niveau de l'enjeu général, c'est est-ce que la politique des personnes handicapées s'inscrit bien dans le mouvement de conquête de la liberté. Nous avons dans ce pays des réussites et des victoires, hein, le droit des femmes à disposer de leur corps, la dépénalisation de l'euthanasie, le droit à déterminer ses préférences sexuelles, etc. Est-ce qu'on veut aller plus loin dans l'autodétermination pour davantage de personnes? Et si oui, est-ce qu'on en tire toutes les conséquences en matière d'exigences administratives imposées aux associations? Et là, je dois déplorer un clash, en fait. Dans les mots, je pense qu'on peut dire oui, autonomie, oui, autodétermination, mais dans les exigences qui sont imposées à l'action, on va dans le sens inverse. C'est ce que j'aimerais démontrer. J'espère que je ne suis pas trop loin. Je vais faire un effort pour résumer, mais moyen, un effort modéré. Bon. Alors, donc, je traduis mon enjeu général en deux enjeux effectifs. Vous voyez, c'est d'abord, est-ce que l'action des services peut être construite vraiment au départ des demandes qu'ils ont entendues? Deuxièmement, est-ce que les services peuvent s'organiser effectivement par rapport aux potentialités qu'ils souhaitent développer dans l'environnement des personnes et des groupes qui font appel à eux? Est-ce que c'est le cas maintenant? Je ne pense pas. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est sans doute dû en partie à une méconnaissance de ce qu'est le travail en association. Et je vais en donner deux éléments, en donner davantage, mais là je me limite à deux. Alors, il y a un premier aspect qui est méconnu ou qui est oublié ou qui est incompris ou qui n'est pas pris en compte en matière d'identité associative, c'est que l'identité d'une association n'est jamais circonscrite, et loin s'en faut, par l'agrément qu'elle a accepté, le cas échéant, de mener. Parce que bien en amont de cette éventuelle acceptation, il y a eu une rencontre constitutive, une association. Ce sont des citoyens qui acceptent librement de lier leur sort pour faire exister quelque chose, des droits, ou faire cesser quelque chose, par exemple une discrimination. Et parmi ces citoyens, nous trouvons effectivement très souvent des bénéficiaires emblématiques du travail commun et de la co-construction dont vous avez rappelé à juste titre l'importance. Alors l'identité d'une association, ce n'est pas son agrément administratif. Et encore moins, évidemment, le rôle supposé de sous-traitant des services publics que d'aucun fantasme. L'identité d'une association, c'est une formule qu'on pourrait décrire comme rencontre libre, fois territoire. Un territoire n'est pas l'autre. Et en dessous et en face, un état de la société dont on ne se satisfait pas. Voilà, c'est ça l'identité. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que le sens de l'action d'une association ne peut être que singulier et que donc toutes les associations qui font partie d'un ensemble, comme les services d'accompagnement, veulent et font que cet ensemble soit heureusement extrêmement diversifié. Voilà. Et donc c'est cette méconnaissance de la nature d'une association qui, me semble-t-il, est un des éléments du clash dont nous avons entendu parler. Et alors, évidemment, ce clash nous conduit à avoir des velléités de centralisation bureaucratique, d'assujettissement parfois des associations, hein, en disant on vous finance, fermez-la, quoi, hein, faites ce qu'on vous demande. Hein, et on ne voit que trop bien, j'espère, que cette uniformisation serait une catastrophique perte de sens pour des associations comme les services d'accompagnement qui se verraient amputées de ce qui fait réellement leur identité. Alors, il y a une deuxième caractéristique du travail en association qui est encore moins comprise ou encore moins connue et qui est souvent mise à mal, c'est le fait que les associations tendent à s'auto-imposer, un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer, une concordance suffisante entre ce qu'elles veulent dans la société et la manière dont elles s'organisent pour y arriver. Et donc, ce qu'on veut changer dans le monde, c'est un élément. La manière dont on s'organise en interne pour essayer d'y arriver, c'est l'autre élément. Et on essaie qu'il y ait une concordance au moins suffisante. Hein, par exemple, est-ce qu'on pourrait vouloir vraiment que la vie de tout un chacun puisse être, comme on dit, conforme à la dignité humaine, si on ne mettait pas le respect de cette dignité au poste de commande de la relation professionnelle à l'interne même du service? Et ce n'est pas le cas dans tous les secteurs. Et loin s'en faut. Alors, je ne vais pas entrer dans des développements trop longs, hein, mais il me semble qu'on ne peut pas vouloir que la personne handicapée soit reconnue comme un sujet si l'organisation même du service n'est pas suffisamment apte ou en position, hein, comme dit Goffman, c'est une magnifique expression, de donner la face à celles et ceux qui le sollicitent. Donner la face, c'est l'inverse de perdre la face, hein, et donner la face, c'est effectivement manifester à quelqu'un qu'il est un partenaire de plein droit des actions qui sont entreprises avec lui, alors même que l'état de sa situation sociale relève plutôt de la stigmatisation. Un élément trop peu étudié, me semble-t-il, dans cette envie de donner la face, c'est le souci de manifester sans cesse les signes du lien. Et on en a entendu parler ce matin, hein, la tasse de café, aller chez les gens, passer du temps, etc. Cela, c'est faire exister, effectivement, une forme de lien, et c'est une concordance suffisante avec ce que l'on souhaite pour les personnes pour lesquelles on se mobilise. Et donc, il me semble que c'est là une des raisons pour laquelle il est demandé de conserver des équipes à taille réduite, hein, puisque, et d'ailleurs je cite le manifeste, hein, elles sont indéniablement valorisées pour leur capacité d'innovation, leur proximité et leur connaissance approfondie, je souligne, des personnes accompagnées. Donc on ne peut pas, me semble-t-il, espérer que des gens se voient signifier qu'ils sont, pour au moins une partie de la société, hein, réellement des sujets, si on ne travaille pas les signes du lien qui manifestent cette identité-là. Alors j'ai relu la déclaration de politique régionale de 2019 et j'ai quand même trouvé une ligne qui dit ceci à la page 48. Replacer l'humain au centre de l'accompagnement, on se fout de la gueule du monde, excusez-moi, hein, parce que, qu'est-ce que, enfin, vous voyez, on ne peut pas à la fois transformer, comme on a entendu ce matin de très nombreux exemples, hein, imposer des exigences programmatiques de l'action, définir des indicateurs, hein, des modèles d'organisation imposés par des consultants, hein, que Christine a nommé, et dire qu'on va replacer... Enfin bon, il faut arrêter à un moment donné ce double discours. Mmh. Alors, on en est à un tel point... Je suis presque à la fin. Okay. On est à un tel point de contradiction et d'absurdie, hein, que j'ai pensé qu'il était utile de vous rappeler le paradoxe que le philosophe Zénon d'Élée en 490 avant Jésus-Christ avait défini. Et donc, ce paradoxe, c'est celui du mouvement qui est impossible. Donc pour Zénon, le mouvement est impossible, car avant que l'objet en mouvement ne puisse atteindre sa destination, il doit d'abord atteindre la moitié de son parcours, mais avant d'atteindre cette moitié, il doit d'abord en atteindre le quart, mais il faut d'abord en atteindre le huitième, etc. Ainsi, le mouvement peut ne jamais commencer. Et si vous réfléchissez à ce paradoxe, c'est exactement ce qu'on nous demande. Donc, on nous demande de faire des programmes, de découper notre action en étapes rationnellement définies, traduites en objectifs souvent quantitatifs, c'est-à-dire on nous demande de rendre le mouvement de transformation impossible. Donc en conclusion, voilà, j'espère que j'ai pu montrer que les deux demandes qui étaient exprimées dans le mémorandum d'ASA de conserver la taille des services et de refuser leur uniformisation, ces demandes sont pleinement justifiées par le sens même des actions qui sont à accomplir et qui est menacée aujourd'hui, notamment par la prégnance des modèles promus dans d'autres univers par des consultants internationaux. Si ces modèles marchaient, on le saurait. Alors, deux composantes de la vie associative, en effet, donc l'identité des associations comme réponse libre de personnes qui s'engagent en liant leur sort, et deuxièmement, l'exigence de concordance suffisante, sont en réalité des conditions sine qua non d'une action efficace de lutte contre les inégalités. Elles sont pourtant, me semble-t-il, oubliées, incomprises, méprisées par le courant dominant qui met dès lors en péril ses actions elles-mêmes. Et derrière cette lutte, commencée dans les années 90, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le sens de l'État et de l'action publique qui nous paraît être en jeu. Je vous remercie.
Merci. Merci Jean Blairon, c'est moi qui suis un peu désolé d'avoir si peu de temps finalement. On aura envie de pouvoir vous écouter pendant deux heures et on sent qu'il y a tellement de profondeur et de couches aussi à vos réflexions. Et merci de vous être prêté à cet exercice d'aller aussi dans quelque chose d'assez succinct évidemment. Bon, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas en avance sur le timing de la matinée. On n'est pas complètement dramatiquement en retard non plus, mais on ira sans doute manger vers 12h45. J'ai quand même envie donc de pouvoir laisser un temps maintenant pour écouter du coup chaque représentant politique qui est là et leur demander au fait mais vraiment essayer d'aller un peu à l'essentiel sur s'il y a une idée, une chose, un élément principal que vous gardez de cette matinée, qu'est-ce que ce serait ? Et alors d'essayer chacun de tenir dans un timing de 2 à 3 minutes. Comme ça, on peut tous vous écouter. On a encore ce temps d'attention et puis après, on regardera les dessins qu'a fait Paul, et on aura un moment de clôture avant d'aller manger ensemble, et le moment de lunch sera évidemment un moment pour continuer les échanges et continuer les interactions les uns avec les autres. Alors je vais passer le micro, je vais prendre dans l'ordre qui est écrit sur mon papier, je vais passer le micro tout d'abord à Bertrand Custine qui peut se présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Bertrand Custine, je suis mandataire communal dans la commune d'Ivoire, un peu plus au sud ici de Namur. Je suis collaborateur politique au Parti des Filles, et en tout cas provisoirement pour quelques mois, puisque autre, indépendamment de ça, je suis fonctionnaire au SP Finance, les méchants qui taxent. Non, je suis au service centraux, donc je suis un peu exempt de la taxation. Mais cette matinée, en fait, j'ai juste envie de commencer en vous remerciant de ces échanges, parce que je suis un néophyte, enfin complètement inexpérimenté dans le secteur qui est le vôtre. Et donc c'est le type d'échange, oui j'ai oublié de dire que j'étais aussi candidat aux élections, c'est entre autres à ce titre-là que le parti, donc au niveau du Parlement wallon, qui est une compétence évidemment qui concerne beaucoup le secteur et la dynamique qui nous concerne ce matin. Donc c'est pas du tout le domaine que j'appréhende au quotidien, j'ai la grande chance de vivre avec un médecin généraliste très impliqué dans son boulot et qui me relate non pas des situations personnelles, enfin évidemment il anonymise les situations, mais il me rencontre régulièrement et ça fait le lien avec mon engagement politique, des situations vécues par toute une série de ses patients au quotidien, outre la maladie ou le handicap, qui est le sujet du jour, mais il me rend compte de situations, y compris de difficultés en termes d'accompagnement. Donc il me dit régulièrement, Bertrand, parlez-en au parti, dans votre programme électoral, quand vous faites des interventions au Parlement, etc. Donc ce lien aujourd'hui, le parti me l'a demandé, eu égard aussi, parce qu'il sait évidemment que je vis avec Timothée, qui lui-même, dans son engagement de médecin, a fait le choix de suivre des cours de langue des signes pour justement briser cette barrière médicale avec tout un public fragilisé est pénalisé, qui n'a pas accès à ce genre de choses. Et donc, il me relate des choses, et donc ça fait le lien avec ceci. Je ne serai pas beaucoup plus long, simplement, donc, outre vous remercier et d'avoir appris beaucoup de choses en termes de liste d'attente. C'est quelque chose que j'ignorais complètement qu'il y avait autant d'attentes. C'est juste dramatique. 5 ans, j'ai retenu le chiffre. Dans un premier, enfin, vous, madame, c'était 1 an, 10 ans, voilà. Enfin, voilà, je l'ignorais, ça fait partie des enseignements que je tire ce matin. Et comment peut-on imaginer aujourd'hui, et quels que soient, enfin, je l'espère, les représentants politiques, comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'un besoin aussi vital que des accompagnements pour des formalités administratives, pour une guidance budgétaire, pour la maladie, le handicap, puisse attendre, peut-être ne fût-ce que 15 jours ou 1 mois. Et vous êtes dans des réalités de 10 ans. Enfin, c'est dingue, oui, je suis d'accord. Ça, c'est un des grands enseignements, enfin, qui, bon, sur l'automatisation des droits, l'individualisation des droits, Christine le sait bien, ben, notre formation politique DEFI est totalement favorable à la suppression du statut cohabitant. Donc, voilà, les alliés de cette cause, on en fait partie, et donc vous savez que vous pouvez compter sur nous. Je souhaite aussi répondre à la question que Jean Blairon a posée sur le sens qu'on souhaite donner à l'État, et désolé si je prends un peu plus de temps, mais parce que, comme vous l'avez posé, je me permets d'y répondre, parce que c'est essentiel, et je parle à titre tout à fait personnel, je ne connais pas la réponse type de mon parti là-dessus, mais à titre personnel, le sens de l'État, c'est un État qui est au service de l'ensemble de la population. Et quand on dit ensemble, je pense donc qu'il faut... On est dans un mécanisme de co-construction. Je l'ai noté sur mes notes avant même que le mot soit évoqué par madame tout à l'heure. Oui, on doit co-construire. Notre parti est fondamentalement favorable à la participation citoyenne. C'est inscrit en long, en large, dans tous nos programmes et dans nos publications. Mais avant de créer des assemblées citoyennes, enfin, d'innover, etc., avoir des moments d'échange comme celui d'aujourd'hui, et qui doit se répéter, parce que ce n'est pas le tout de nous interpeller, donc continuer à nous interpeller, même après les élections, même si peut-être nous n'avons pas d'élus directement, mais notre action politique, évidemment, évolue avec les besoins du quotidien. Les processus d'évaluation doivent être permanents, et donc, effectivement, avant de dilapider, excusez-moi du mot un peu cash, l'argent public, parce que c'est aussi l'un des fondamentaux de notre action, nous, de nos positions, c'est que fait-on avec l'argent public ? L'argent public, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est celui de toute la population. Il faut bien le gérer. Avant de le mettre dans des multinationales, des grands consultants, de voir comment on peut le faire avec les acteurs de terrain. Je pense que des collègues auront bien d'autres choses à dire, mais je pense que c'est l'essentiel de mon message.
Eh bien, merci. Je passe la parole à Laurent Evart du groupe Écolo. Donc on essaye bien de tenir dans un timing serré. Je sais que c'est compliqué, mais tout le monde sera content si on y arrive.
On va essayer. Donc moi c'est Evart Laurent, donc je suis député au Parlement wallon depuis 2019, donc pour Écolo, comme ça a été dit. Ce que je retiens, c'est un mot en tout cas, c'est couteau suisse. Je trouvais ça intéressant parce que quand on est assistant social, on est souvent couteau suisse, et c'est comment, en fait, on donne de l'importance à un couteau suisse. On donne rarement de l'importance à un couteau suisse. On va plutôt mettre en valeur la grande scie, la belle grande scie qui peut couper plein de choses. Mais par contre, le couteau suisse qui peut être utile à plein de moments différents, en fait, on a beaucoup plus de mal à le mettre en valeur. Et ça répond un peu à ta question, à te dire... Ben, quand il y a une crise, on met beaucoup de moyens, on y répond. Mais par contre, quand le couteau suisse doit agir, bah, on donne moins de moyens. C'est parce que là, en fait, la grande scie, on peut la mettre un peu en valeur, on peut l'utiliser. Et donc, c'est compliqué de se dire il faut donner la valeur à ce couteau suisse. Je ne vais pas revenir sur l'aspect numérique, mais vous aurez compris mon point de vue. Et comme vous tous, je pense, on le déteste pas, mais on le haït. Et donc, il va falloir, en tout cas, c'est clairement un changement culturel et un combat culturel et sociétal qu'il va falloir gagner. J'ai pas, moi, la baguette magique de savoir comment on va le vaincre, mais en tout cas, il va falloir le faire. Tu disais justement le poids du l'exécutif, du législatif, que l'exécutif est beaucoup trop, a beaucoup trop de poids et maintenant, après 5 ans d'expérience au Parlement wallon, je le vois bien que le législatif n'est pas suffisant. Ici, on a fait un décret sur l'accompagnement où je l'ai travaillé avec certaines personnes dans la salle, où on l'a travaillé avec d'autres personnes, et c'est pas suffisant en fait. Et moi, mon poids, il est au niveau législatif de travailler sur ce décret, de pouvoir le voter, de pouvoir le modifier si c'était nécessaire, mais on voit que c'est pas suffisant. Et oui, il y a un poids exécutif, mais je pense que même au niveau législatif, on oublie qu'on est aussi le. On contrôle l'exécutif, mais on peut aussi faire ce travail, je dirais, plus sur le long terme, de bataille culturelle aussi dans les parlements, de bataille de débat. Et c'est aussi important. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne à chaque fois ou quelque chose qui est facile, mais je pense que c'est important. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon travail aussi. Ce n'est pas que du législatif, c'est aussi du combat. Et en parlant de combat, maintenant aussi, pour l'avoir vécu après 5 ans, je pense que le combat sur la charge administrative, elle va être importante. Dernièrement, on a eu les agriculteurs qui se sont battus contre les charges administratives. J'aurais espéré qu'on ait une convergence de lutte, puisque derrière les tracteurs, on aurait pu avoir les travailleurs sociaux, on aurait pu avoir les médecins, on aurait pu avoir les infirmiers, on aurait pu avoir... Enfin, je veux dire, tout le monde social aurait pu être derrière les agriculteurs pour justement avoir ce changement. Et dans les 19 mesures que le gouvernement avait proposées, je vous en prends une parce que ça, entre guillemets, m'a fait rire, mais en même temps pas rire du tout. Une des mesures, donc il y avait 19 mesures, et une des mesures, c'est on va demander à l'administration de parler convenablement aux agriculteurs. Donc on en est là où le gouvernement dit, comme mesure, on va faire en sorte que l'administration parle convenablement aux agriculteurs. Et donc là, je pense que c'est une montagne, en tout cas, qu'on va devoir franchir, parce que si on en est là en se dire ça, c'est une mesure importante, enfin voilà, ça devrait être à la limite la base.
Merci. Passer la parole à Clotilde Léal-Lopez. Voilà, donc un élément que vous gardez vraiment de la matinée. Oh, un élément d'apprentissage principal.
C'est beaucoup dire, un élément. En tout cas, tout d'abord, remercier aussi pour l'invitation à la présentation du mémorandum. C'est toujours un moment, je vais dire, important pour une ASBL, mais également aussi pour le monde politique, puisqu'il se permet de s'imprégner des remarques et en plus ici de pouvoir échanger, ce qui est bien, c'est pas recevoir uniquement par mail et puis voilà, basta. Donc ça c'est très bien. Alors je remercie aussi les services d'accompagnement en situation pour les personnes en situation de handicap, puisqu'elles aident les familles et les aidants proches à favoriser la participation à la vie de tous les jours, à la vie civile, comme toute autre personne, de la personne en situation de handicap, en milieu de vie, et également de développer leur citoyenneté tout au long de leur parcours de vie. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est un peu la frustration et la révolte parfois de ne pas avoir été entendue, écoutée par le monde politique. Moi, je dois dire que depuis une décennie, il y a quand même eu des évolutions au niveau à différents niveaux de pouvoir. J'ai aussi la chance d'être membre de l'ASBL Inclusion et pendant la période Covid, d'animer des visioconférences sur le handicap et dont on en a sorti un bouquin avec Céline Frémaux. Donc, c'est dire que le handicap est au cœur aussi de notre politique, tout comme la santé. Alors, ce que j'ai retenu également, c'est la charge administrative, et ça, pour le voir dans mes permanences, je ne peux que vous rejoindre. Je me pose aussi la question de remarquer, en fait, je remarque que les travailleurs sont beaucoup en contrat APE. Alors, je m'étonne comment pouvoir structurer et mettre en place vraiment des politiques handicap, des politiques d'inclusion avec des contrats aussi, je vais dire, fragile. Je pense qu'il là aussi, il y a une réflexion à apporter. Alors, par rapport aussi, comme vous le savez, Alda Gréoli et Maxime Prévost avaient émis l'idée de l'assurance autonomie, une assurance qui permettait tout au long de la vie depuis 26 ans jusqu'à la fin de vie, de pouvoir apporter un accompagnement donc de la personne, tant au niveau santé qu'un accompagnement psychologique et autres. Donc ça, ce que je retiens, c'est justement que cette assurance autonomie, si on arrive à être au pouvoir, on va la relancer. Concernant la suppression du statut cohabitant, bien sûr que nous en sommes tout à fait du même avis. Nous sommes également du même avis d'avoir des petites structures diversifiées puisque chaque accompagnement est aussi personnalisé. Donc ça, c'est super important également. Je regarde un peu dans toutes les notes parce que c'était assez conséquent. Je vais plutôt prendre dans votre mémorandum quelque chose qui m'a frappée. C'est au niveau de la province de Liège, le manque d'accompagnement. Alors, je me posais la question, pourquoi l'accompagnement n'est-il pas harmonisé sur la Wallonie? Comment ça se passe? Comment est-ce possible? Et que pourrait-on faire? Donc, la différence du nombre d'accompagnants m'a vraiment interpellée. Sinon, pour le reste, évidemment, la formation est importante pour pouvoir bien accompagner les personnes. Et une chose que j'ai retenue, c'est le choix. On n'impose pas à la personne, mais on lui donne le choix et on l'accompagne suivant sa manière dont elle a envie de vivre et où elle a envie d'être. Mmh. Alors, je tiens aussi à souligner les logements à encadrer, accompagner comme à Andenne, puisqu'il y a des membres inclusion qui y sont. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle forme d'inclusion. Parce qu'attention, en politique, on parle du mot inclusion un peu à tort et à travers. Mmh. Et parfois, je me demande s'ils comprennent ce qu'est le mot inclusion. Mmh. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous félicite et je félicite toutes les équipes pour le travail qui est fait. Parce que sans ça, la société ne serait pas aussi solidaire et aussi belle.
Merci. Voilà. Je passe le micro à Alice Bernard pour le PTB. Ouais. Donc, même chose, un peu l'essence de ce que vous gardez de ce matin.
Merci beaucoup. Donc moi, je suis Alice Bernard. Je suis députée au Parlement wallon depuis 2019. Avant ça, j'étais... Enfin, je suis toujours le diplôme, là, c'est pour la vie, assistante sociale. J'ai travaillé longtemps à la Ligue des familles, dans tout ce qu'on appelle l'éducation permanente. Et donc, une chose que je retiens de la journée d'aujourd'hui, ben, c'est d'abord un peu un rappel de situation que j'ai moi aussi vécue, le fait de devoir répondre à toute une série d'exigences de la part du pouvoir subsidiant, remplir des formulaires, des rapports d'activité, mettre les gens dans des cases et beaucoup de chiffres, etc., pour finalement se rendre compte que c'est pas ça l'important. L'important, et j'ai un grand merci à Sylvie d'avoir témoigné ce matin, l'important, c'est pour ça qu'on aime le boulot, excusez-moi, je suis parfois un peu émue, c'est de voir que ce qui compte, c'est que justement, on arrive à un boulot qui a du sens et qui donne la possibilité à des gens qui en ont besoin de pouvoir retrouver de l'autonomie et de prendre leur place dans une société qui, en fait, n'est pas faite pour eux et refuse de voir qu'il y a une place pour tout le monde dans la société. Et donc, quand on a évoqué, et c'est Jean Blairon qui l'a fait, le rôle d'un parti politique dans la société, pour moi, et je trouve que c'est tout à fait juste ce que tu as dit, c'est quelque chose. Le parti politique, il est complètement subsidiaire. Mais vraiment, le plus important, c'est les commanditaires de l'action. C'est les gens qui sont là, qui ont des besoins. Et Sylvie, c'est une des personnes qui est la personnification de ce qui devrait commander l'action de tous les partis politiques. Et on l'oublie vraiment, vraiment trop souvent. J'ai dit tantôt à Christine, on devrait faire des rencontres comme ça tous les mois. Et effectivement, ça devrait permettre à tous ces gens, on n'est pas très nombreux dans le Parlement, d'avoir tout le temps en tête, mais pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on fait des textes? Pourquoi est-ce qu'on essaie de changer des lois? C'est pour justement changer des choses concrètement dans la réalité, dans le quotidien de tout le monde qui est dans la société. et pas le contraire. Parce qu'on a, et ça, j'ai vu, ça fait 5 ans que je suis au Parlement, la rapidité avec laquelle on se laisse entraîner dans les commissions, les amendements, les machins, les réécritures et le tchic-tchac, qui font que finalement, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens, ce qu'on vient de voter ? Et vraiment, on a besoin de journées comme celle-ci, et encore vraiment, merci de l'avoir organisée, merci de nous avoir invités. On a besoin de vous pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'est-ce qu'il faut changer. Par exemple, la question de statut de cohabitant. Tout le monde, maintenant, il est pour supprimer le statut de cohabitant, en tout cas dans les partis de gauche. Mais ces partis de gauche ont porté le statut de cohabitant à un moment donné. C'est qui a instauré le statut cohabitant ? Donc ça, il y a une série de choses qu'il faut bien, il faut pas les oublier, il faut pas les oublier non plus. Toute la question des services de première ligne, toute la question de la numérisation, on en a suffisamment parlé. Il y a aussi au Forum, c'est une catastrophe. Donc tout ça, ça a été mis en place par toute une série de gens qui ont fait des lois et des décrets pour les mettre en place. Et puis maintenant, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc il faut oser se dire, OK, on arrête, on remet les choses à plat, on met de côté toute la merde qu'on a fait dans le passé et on reprend sur une nouvelle base. Et ça va être un enjeu vraiment pour nous très, très important.
Merci. Et en dernier, je passe la parole à Latifa Idbal pour le MR. Du PTB.
Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Merci de me donner la parole dans le cadre de cette rencontre. Je veux aussi remercier évidemment les personnes qui nous ont apporté des témoignages particulièrement éclairants, mais aussi les différentes expertises qui nous ont permis de voir aussi la problématique à travers un prisme assez particulier. Ici, fondamentalement, donc moi je suis députée à la région de Bruxelles. Donc normalement, ce n'est pas moi que vous aurez dû avoir ici devant vous. C'est une matière qui m'intéresse au niveau de la région bruxelloise, mais il n'y avait pas de mandataire disponible pour être présent ce jour, et donc on m'a demandé de remplacer. Donc je me ferai un petit peu la courroie de transmission de ce que j'ai entendu ici. Il se fait qu'en réalité, ce que j'ai entendu aujourd'hui, finalement, vous vivez les mêmes situations que le secteur au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Ce qui me fait dire aujourd'hui que l'ensemble des politiques publiques qui ont été mises en place à travers les différentes problématiques que vous rencontrez au quotidien, finalement, on peut résumer la situation en disant qu'il y a un échec relatif des politiques publiques, que ce soit en région de Bruxelles-Capitale ou ici. Vous avez pointé du doigt toute une série de problèmes que vous rencontrez. Je les ai évidemment notés et je constate que ce sont les mêmes, les charges administratives, la question du numérique. Vous avez parlé de l'ordonnance que nous avons effectivement votée au niveau du Parlement bruxellois. On avait essayé d'introduire effectivement un amendement. Ça n'a pas été accepté. Mais voilà, c'est aussi ça la réalité de la démocratie. Toute la question de l'accès aux services, on le sait bien. Les listes d'attente. J'ai retenu aussi quelques concepts. On a parlé tout à l'heure du couteau suisse et j'ai trouvé ça évidemment extrêmement intéressant. J'ai envie de dire qu'il y a des mots en fait qui sont beaucoup plus parlants que toute une série de thèses qu'on pourrait en réalité développer parce qu'ils sont extrêmement éclairant par rapport à ce que vous vivez, à ce que vivent aussi les personnes en situation de handicap. Peut-être pour revenir à quelques éléments complémentaires, on a parlé tout à l'heure du statut de cohabitant. Ben, j'ai envie de dire qu'en fait, ça s'inscrit dans une logique bien plus large, puisque en fait, le droit n'est pas neutre, et on le sait très bien. Moi, j'ai été vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, et c'est aussi un des sujets, évidemment, sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Au niveau du Parlement de la région bruxelloise, c'est quelque chose que je porte, mais qui est encore effectivement difficile au niveau du national. Mais c'est quelque chose, j'espère en tout cas, qu'on arrivera à obtenir la fin de ce statut de cohabitant. On a parlé aussi de l'assurance autonomie, c'est aussi dans notre programme, donc c'est quelque chose que nous allons aussi porter. On porte aussi la question de la déduction fiscale pour ce qui est, par exemple, des aménagements en ce qui concerne les habitations, les logements, c'est important aussi. Il y a aussi la question de la formation et en particulier la question du décloisonnement. Parce que je pense qu'en fait, on est dans des logiques où on pense, on l'a dit tout à l'heure, mettre les gens dans des cases. Et en fait, fondamentalement, je pense que pour toute une série de personnes qui entrent dans cette catégorie, pourquoi ne pas envisager de pouvoir aussi les accompagner tout simplement sur le marché du travail? C'est possible, mais pour cela, il faut des accompagnements. Et je pense que le premier qui doit donner un exemple, ce sont les services publics. Aujourd'hui, les services publics, les administrations publiques ne font pas suffisamment d'efforts pour porter aussi ce combat. Donc voilà quelques éléments, mais je crois que c'est important évidemment de les rappeler. Mais donc, je vous promets de me faire le porte-parole de ce que j'ai donc entendu ici auprès des mandataires de la région.
Merci à vous. Très bien. Et pour clôturer... Ouais.
Ouais. Et ce que je tiens à dire, c'est que j'ai été très écœurée cette semaine-ci, c'est quand j'ai vu ce qui s'est passé au Parlement, avec Catherine Fraisse notamment, pour le remboursement de l'allocophilie pour les enfants autistes. Alors, à quand est-ce que certains partis ont vu quand même les yeux sur le problème de l'enfant autiste? Moi, je veux bien leur préciser pendant une semaine mon autiste pour qu'ils comprennent la situation. L'autisme, ce sont des enfants très sensibles, hyper sensibles, très intelligents, attachants, mais aussi très, qui peuvent être très vite perturbés, etc. Il leur faut une stabilité extraordinaire. La locomotie, c'est très, très important, puisque ce sont des enfants qui ne savent pas exprimer facilement ce qu'ils ressentent. Et les parents ne peuvent pas toujours comprendre non plus. Donc, la locomotie, c'est primordial. Alors, pourquoi ce refus?
Ouais, merci pour ce partage. On ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant, évidemment, on s'en doute bien. Merci. On va clôturer de toute façon maintenant. Je passe la parole à Vincent Collin pour justement faire un mot de clôture par rapport à cette matinée.
Je vais être très bref, hein, puisque je ne me présente pas aux élections. J'espère que cette matinée était inspirante, hein, c'est un mot un peu à la mode aussi, inspirant, pour tout le monde, hein, que ce soit les politiques, que ce soit les professionnels ou les quelques usagers qui sont ici. Et en tout cas, elle a été inspirante, elle a été très inspirante pour moi, même si à certains moments, je me sens un petit peu mal à l'aise, hein, puisque je viens d'un service d'accompagnement qui est spécialisé en nouvelles technologies. Et qu'effectivement, quand j'ai rencontré l'ASA, j'ai été à deux doigts de me faire jeter avec des plumes et tout ce qui s'ensuit en disant « on ne veut pas de toi ». Mais effectivement, on est obligé d'être un petit peu schizophrène parce que la technologie, c'est aussi, et on en a parlé, des solutions qui permettent de mettre les personnes handicapées en capacité d'autonomie, mais c'est aussi malheureusement un frein. Je voudrais terminer cette matinée simplement sur une citation que j'aime beaucoup de Gaston Berger, qui est un truc que j'avais déjà mis à l'époque sur mon mémoire de fin d'études, qui est « Demain, il y a très longtemps, demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de vous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Je trouve que c'est une phrase qui est très forte. Et ce qui est important, c'est de se dire, mais qui va inventer ce monde futur? Mais pour moi, c'est nous. C'est nous ensemble, les politiques et les ASBL, les travailleurs du terrain. Et on l'a dit tout à l'heure, ne laissons pas inventer notre futur par les grenouilles, par les consultants internationaux ou par les personnes ou par Google, etc. Voilà, je vous remercie en tout cas tous. Et je voulais peut-être aussi dire qu'on va numériser, puisque ça, on sait faire dans mon service, on va se permettre de numériser les productions graphiques et de vous les envoyer en haute qualité, y compris, je vous invite aussi à les imprimer en grand et de les faire vivre dans vos services. où, maintenant que vous êtes les politiques des ambassadeurs du handicap et du milieu de vie, de les partager avec les membres de vos partis. Merci.
Merci. Et donc, merci à Paul de Inner Frog pour les dessins. N'hésitez pas à venir consulter et à regarder.
Je peux dire quelque chose.
Vous pouvez dire.
Excusez-moi.
Ouais.
Mais si vous m'envoyez des graphiques, je suis désolée, je
ne
pourrais pas les voir. Il y aurait moyen d'avoir par écrit en Word, comme ça.
Pour avoir un peu un compte rendu de ce qui s'est dit, c'est ça, du contenu?
Pas de ce qui s'est dit, mais des graphiques que vous voulez envoyer.
Ah oui, bah oui, on va voir. Hein. On va voir ce qui est possible.
On en fait une audio description, si vous voulez.
Ah bon, bah alors. Si ça vous va, on en discute, on clôture et puis on voit pour vous. Ouais. Où se passe le lunch pour la suite? C'est à l'étage aussi? Ah, même endroit, donc on peut espérer qu'il y a encore du soleil. Je vous remercie à tous pour cette matinée et bonne suite.